Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. L'antenne de RFI vous est ouverte dans un instant. Vos questions sur l'actualité. On parle aujourd'hui du nitrate d'ammonium entreposé au port de Dakar, de la position de l'Allemagne dans l'affaire Navalny et du jour du dépassement. Puis dans 30 minutes, le débat du jour. Vos réactions après l'annonce de Lionel Messi, le footballeur superstar, veut quitter le FC Barcelone, un club dans lequel il est arrivé quand il avait 13 ans. Messi et le Barça et Messi, c'est une histoire. Comme on n'en voit plus dans le foot d'aujourd'hui, alors est-ce que vous comprenez cette volonté de partir? Est-ce qu'il va vraiment partir et où? Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et au standard. Et on accueille Jamel qui nous appelle de Nocibé à Madagascar. Bonjour Jamel.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Ce départ de Lionel Messi, il vous interpelle et vous avez des questions pour la rédaction, alors on vous écoute.
Ah oui, effectivement Arnaud. Donc mardi soir, voilà, je suis regardé les réseaux sociaux et j'étais vraiment très choqué. Et je crois que je ne suis pas le seul, d'ailleurs, parce que tout le monde était choqué en voyant que Messi voulait quitter le Barça. Donc, du coup, premièrement, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il veut quitter le club maintenant après avoir passé 20 ans.
Alors, pour vous répondre, j'ai demandé le renfort d'Hugo Moissonnier, journaliste au service des sports de RFI. Bonjour Hugo.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Pourquoi diable Messi veut-il partir?
Ouais, décidément, toutes les histoires d'amour finissent mal. Alors, plusieurs touches...
En général,
dis la chanson. En général, exactement. Plusieurs touches, plusieurs couches sur ce tableau du désamour. Des raisons sportives, d'abord des échecs successifs, douloureux. En Ligue des Champions notamment, c'est son objectif principal. Il l'a remporté 4 fois cette compétition, mais elle lui échappe. Depuis 2015, il pourrait ne jamais la revoir, puisqu'il a déjà 33 ans. Messi, les remontadas contre Rome et Liverpool, l'humiliation incroyable il y a 2 semaines contre le Bayern, 8-2, c'est trop dur à avaler. Sachant qu'en plus, Barcelone a également laissé échapper le championnat d'Espagne au profit du Real, le grand rival, au terme d'une saison chaotique. Alors ces échecs sportifs, ils sont la conséquence d'une gestion globale discutable. Elle n'a pas plu à Messi, et ça on peut pas lui donner tort sur ce point. Le départ de Neymar en 2017 pour le PSG, c'est un traumatisme. Le Brésilien jamais remplacé, Messi a régulièrement souhaité son retour, alors que d'autres recrues phares ne semblaient pas trouver grâce à ses yeux. On pense notamment au malheureux Antoine Griezmann, le champion du monde français. Le coup de grâce, c'était il y a quelques jours. Messi a appris que son grand ami, compère d'attaque privilégié, l'Uruguayen Luis Suarez, était également poussé vers la sortie. Messi, 6 ballons d'or, un naturel plutôt discret, mais il s'est montré offensif hors des terrains ces derniers mois à l'encontre de ses dirigeants. Un désaccord affiché notamment assez fermement avec Abidal, son ancien coéquipier, devenu dirigeant. C'était cet hiver, à la suite d'un changement d'entraîneur. Et puis, il y a une dernière raison, elle dépasse le Barça, qui n'a pas tous les torts dans cette histoire. Des problèmes avec le fisc espagnol pour Messi, il fait partie de ses joueurs. Ils sont nombreux en Espagne, ayant été condamnés à de la prison pour fraude ces dernières années. Un épisode que la Pulga, la puce, aurait très mal vécu et qui l'aurait poussé également à faire le grand saut.
Alors justement, Jamel, vous avez une question financière à poser encore. On vous écoute.
Oui, aujourd'hui, la clause libératoire du génie argentin est de 700 millions d'euros. Alors, je me demande quel club pourra dépenser cette somme énorme pour un joueur de 33 ans.
Mais oui, qui a les moyens de faire ça, Hugo?
Alors, vous êtes un juriste accompli, Arnaud, mais on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est une clause libératoire. C'est une somme que l'on paye et qui permet à Messi de se libérer de son contrat. Alors franchement, difficile d'imaginer qu'un club puisse dépenser 700 millions d'euros ou que quelqu'un puisse dépenser 700 millions d'euros. A priori, du côté de Messi, on souhaiterait plutôt activer une autre clause, une clause de son contrat qui lui permettrait de partir gratuitement. On rappelle qu'il lui reste 1 an de contrat. Une clause théoriquement obsolète puisqu'il aurait fallu la faire jouer durant le printemps après le dénouement des compétitions. Dans un monde normal, sauf que la saison, elle a évidemment été chamboulée par la crise sanitaire. Elle a largement débordé sur l'été, ce qui permettrait peut-être de revoir les termes du contrat. Ce bras de fer juridique, il pourrait être engagé, mais pas sûr que le Barça souhaite s'engager sur cette voie avec le plus grand joueur de son histoire, tout simplement. Alors un compromis pourrait être trouvé, un montant de transfert fixé par le club catalan pour récupérer tout de même un peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Mais ça ne réglerait qu'une partie du problème. Il n'y a pas qu'une somme à donner au Barça pour obtenir Messi. Il faut payer payer Messi lui-même.
Il faut le payer après.
Qui joue très bien, mais qui ne joue pas gratuitement. C'est quelqu'un de très très bien payé, un joueur très bien payé. Messi, difficile donc de trouver un point de chute à sa mesure à ce niveau-là également. On rappelle enfin qu'un dirigeant du Barça, le secrétaire technique Ramon Planes, hier a déclaré que la direction du club catalan n'imaginait pas un départ de Messi. Il est encore là, Messi.
Vous nous dites que c'est pas encore fait, donc.
C'est pas encore fait, tout simplement.
Ouais. Merci, Hugo. Jamel, vous êtes fan de Messi, si j'ai bien compris.
Non, contrairement, en fait, je suis un fan du Real Madrid.
Ah, vous êtes un supporter du Real. Mais enfin, Messi vous impressionne, comme tout le monde.
Mais en tant que fan de la Liga espagnole, moi, je croise les doigts et je voudrais plutôt qu'il reste au Barcelone.
Vous voudriez qu'il reste.
La Liga a déjà perdu beaucoup de joueurs en perdant Ronaldo et maintenant avec Messi qui va partir, ça va être vraiment très dur.
Bon, on va poursuivre ce débat dans 25 minutes. Hein, vous le savez, réaction à ce départ annoncé Lionel Messi, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Pour la deuxième question du jour à la rédaction, c'est Mamadou qui nous a appelé. Bonjour Mamadou.
Bonjour, bonjour les auditeurs de la RFI.
Bienvenue à vous, vous êtes à Dakar au Sénégal, vous vous interrogez au sujet du nitrate d'ammonium qui est entreposé au port de la capitale sénégalaise. Quelles sont vos questions, Mamadou?
Les autorités sénégalaises ont annoncé la semaine dernière qu'il y a une grande quantité de nitrate d'ammonium stockée dans une zone transit du port autonome de Dakar. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'une telle quantité fait au port autonome de Dakar?
Alors, qu'est-ce qu'une telle quantité fait? On est à peu près à 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. C'est Théa Olivier, correspondante de RFI à Dakar, qui va vous répondre. Bonjour Théa.
Oui, bonjour Arnaud.
Et que fait cette cargaison de nitrate d'ammonium dans le port autonome de Dakar?
Alors, cette cargaison, elle est stockée depuis environ un mois dans le port autonome de Dakar, au niveau des entrepôts maliens, appelés le Môle 3. Elle était seulement censée être en transit et non être stockée au niveau de la capitale sénégalaise. Mais le Mali a bel et bien l'habitude de commander ce produit qui est utilisé à fabriquer des engrais ou des explosifs dans le secteur minier et des travaux publics. Il passe souvent par le Sénégal pour importer ce produit. D'ailleurs, autour de 70% du fret malien passe par le port de Dakar. Selon le ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine, près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium ont été acheminées au Mali en 2018 et une année plus tard, en 2019, ce sont plus de 21 000 tonnes du même produit qui ont été acheminées à partir du port de Dakar. Cette année, il est prévu l'acheminement de 12 700 tonnes de nitrate d'ammonium sur lesquelles 700 ont déjà été évacuées car ces produits, je le rappelle, ne sont pas censés rester longtemps dans le port de Dakar.
Oui. Comment ont réagi les autorités sénégalaises, Théa?
Alors rapidement, les autorités du port de Dakar ont dû réagir parce que elles devaient faire face à l'inquiétude de l'opinion publique dakaroise. Le propriétaire du stock de nitrate d'ammonium a alors été mis en demeure le 19 août pour enlever la cargaison en dehors de la capitale sans délai. L'armateur a d'abord voulu trouver un site de stockage à Diamniadio, c'est une ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de Dakar, un projet que n'a pas du tout approuvé le ministère de l'Environnement. C'est lui qui est chargé de donner les autorisations de stockage de matières chimiques dangereuses. En effet, le stockage de nitrate d'ammonium demande une installation classée pour la protection de l'environnement afin de prévenir tout risque. Et comme l'entreprise n'avait pas d'autorisation pour stocker ce produit au Sénégal et que les procédures sont très longues, le ministère a tout simplement demandé à ce qu'il soit dégagé du pays, m'a indiqué Baba Adramé, directeur de l'environnement et des établissements classés au ministère.
Bon, évidemment, tout le monde s'inquiète parce que le nitrate d'ammonium, on en a entendu parler lors de la catastrophe de Beyrouth, hein, c'était il y a 3 semaines, 180 morts, 6500 blessés. Vous avez une autre question à nous poser, Mamadou?
Oui, je voudrais savoir aussi quelles sont les conditions de stockage d'une telle substance hautement dangereuse une fois arrivé à un bon port.
Voilà, une fois qu'il est au Mali, comment est-ce qu'on stocke tout ça, Théa?
Alors, au Mali, au niveau du Mali, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais le ministère des Transports et de la Mobilité, toujours donc le ministère malien, assure que le déplacement de ce produit se fait en parfaite conformité avec les règles de transport de marchandises dangereuses, c'est-à-dire confinement, discrimination avec d'autres produits sur le même espace et entreposage sur une plateforme à l'air libre.
Et en attendant que tout soit transféré, il y a effectivement des kilos, des tonnes de nitrate d'ammonium qui sont encore à Dakar.
Exactement, parce qu'en fait, la totalité de la cargaison devrait être évacuée d'ici le 1er septembre, on m'a indiqué au niveau des autorités portuaires. Donc, en attendant, le reste de la cargaison est toujours entreposé à Dakar. Les autorités se veulent vraiment très rassurantes. Le nitrate d'ammonium est entreposé à l'air libre, loin de tout autre produit inflammable, afin d'éviter tout risque d'explosion. En tout cas, c'est ce qu'a assuré Fousseynou Soumano, qui est directeur général des entrepôts maliens, dans une déclaration à la télévision nationale sénégalaise, la RTS.
Merci pour ces précisions, Théo-Olivier Mamadou. On a répondu à vos questions ?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Vous êtes à Dakar. La présence de cette cargaison, ça vous inquiète ? Est-ce que vous avez confiance dans les mesures qui ont été prises et que nous expliquait Théo-Olivier à l'instant ?
Nous avons confiance, en tout cas, que ce soit acheminé au Mali, malgré la fermeture des frontières, ça nous inquiète un peu.
Oui, bien sûr. Merci en tout cas de votre question. Merci à tous de nous poser chaque jour des questions qui nous permettent de décrypter et d'aller un peu plus loin sur les thèmes d'actualité que vous entendez chaque jour sur notre antenne. Nous sommes maintenant à Conakry, en Guinée, avec Satigui. Bonjour Satigui.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Et bienvenue sur l'antenne de RFI pour une question autour d'Alexei Navalny. Il y a une semaine tout juste, on apprenait que l'opposant russe avait eu un malaise dans un avion, qu'il avait dû être transporté d'urgence à l'hôpital, et sa porte-parole a aussitôt parlé d'empoisonnement. Satigui, on vous écoute.
Bien sûr Arnaud, le principal opposant russe, Alexei Navalny, a été évacué la semaine dernière à Berlin dans un état grave. Pourquoi le choix de Berlin ?
Alors, pourquoi Berlin ? On va poser la question à notre correspondant à Berlin, c'est assez logique. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Arnaud, bonjour Satigui.
Pourquoi Alexei Navalny est-il aujourd'hui dans un hôpital berlinois ?
Alors, c'est d'abord dû au fait que c'est une ONG berlinoise qui a organisé logistiquement son transfert d'Omsk en Sibérie vers Berlin. Cette ONG Cinema for Peace, créée après les attentats de septembre 2001 pour promouvoir la paix dans le monde, pour faire simple, elle a déjà été active sur un plan humanitaire et elle est capable, visiblement, d'affréter rapidement, grâce à des sponsors, des avions médicalisés. C'est ce qui s'était déjà passé il y a 2 ans, lorsqu'on avait transporté déjà de Russie vers Berlin Piotr Verzilov, un membre du groupe contestataire Pussy Riot. Donc il y a une certaine continuité qui a expliqué que, contacté par la Russie, eh bien le dirigeant de cette ONG est décidé de mettre en place cet avion afin de permettre le transfert à Berlin, dans le même hôpital de la Charité d'Alexei Navalny.
Est-ce que c'est juste une question de logistique, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, Pascal ? Ou est-ce qu'il y a une vraie raison politique aussi derrière ?
Non, c'est clair qu'il y a aussi une volonté politique et qu'un tel transfert implique aussi que dans les coulisses, eh bien, on se démène diplomatiquement pour favoriser la chose. Il a d'abord fallu obtenir que les autorités russes au plus haut niveau, à savoir avec le président Poutine, permettent à Navalny de quitter le pays. Ça s'est fait évidemment avec la chancelière Merkel, avec aussi la médiation du président finlandais qui a contacté le Kremlin. Donc il y a aussi un rôle politique dans les coulisses. Diplomatique. L'avion n'a pas atterri sur l'aéroport prévu, mais sur l'aéroport militaire utilisé normalement à Berlin par les membres du gouvernement pour leur déplacement. Ouais. Il a été escorté par des policiers berlinois. Il est aujourd'hui, Alexei Navalny, dans son hôpital, protégé par des membres de l'Office criminel fédéral qui sont normalement compétents pour la protection des responsables politiques. Ça montre bien là qu'on a également un visiteur politique qui joue aussi ce rôle,
oui,
en quelque sorte, auprès du gouvernement.
Il y a une importance politique évidente. Satigui, vous aviez une deuxième question à nous poser à ce sujet.
Comment peut-on expliquer l'empressement de l'entourage d'Angela Merkel à parler de l'empoisonnement ? Cette attitude ne peut-elle pas peser sur les relations entre l'Allemagne et la Russie ?
Pascal, est-ce que Angela Merkel est sûre de son coup en parlant d'empoisonnement ?
C'est vrai que lundi, le porte-parole de la chancelière, avant même que l'hôpital de la Charité ne diffuse son communiqué dans lequel il concluait à un empoisonnement, en tout cas au fait que des substances avaient été retrouvées dans le corps de Navalny, eh bien le porte-parole d'Angela Merkel avait franchi un pas allant plus loin et parlant d'un emprisonnement, parlant du danger qui entourait Navalny, un empoisonnement. Effectivement, on a l'impression que l'Allemagne, d'habitude très prudente, a monté d'un cran. On peut peut-être dire que finalement, ils n'ont pas grand-chose à perdre. On n'a pas grand-chose à perdre à Berlin, vu la situation déjà plus que refroidie des relations avec la Russie. On estime aussi ici que pour avoir être perçu comme un partenaire d'égal à égal, eh bien, il faut parler un langage de fermeté avec Moscou. Il faut dire qu'ici, entre les sanctions après l'annexion de la Crimée qui ont été profondément voulues par l'Allemagne, le meurtre en plein cœur de Berlin il y a un an d'un opposant tchétchène, il y a quand même un passif assez lourd qui explique aussi le fait qu'en Allemagne, on change peut-être de braquet pour essayer de montrer à Moscou qu'on n'est pas prêt à tout accepter, même si on sait très bien que en ce qui concerne la possibilité de clarifier définitivement les responsabilités et voire de prononcer des sanctions contre les responsables, eh bien les moyens dont disposent Berlin et l'Europe plus largement restent limités.
Oui, on n'en est pas là, on n'en est pas à la condamnation, on n'est pas à savoir qui a empoisonné, s'il y a bel et bien eu empoisonnement. Merci beaucoup Pascal Thibault pour cette précision en direct de Berlin et merci à Satigui qui est à Conakry. On a répondu à vos questions.
Oui, Arnaud, si, je souhaite bonne journée à l'ancien acquitté du côté de Paris.
Je vous souhaite une excellente journée à vous aussi du côté de Conakry. Il est 10h26, dans moins d'un quart d'heure, débat foot, vos réactions après l'annonce choc du départ de Lionel Messi du Barça. Mais d'abord, la question d'Alceni en ligne de l'Abbé en Guinée. Bonjour, bienvenue Alceni.
Bonjour Arnaud Pontis et bonjour à Simon Rosé.
Oui, Simon Rosé, qui va vous répondre? Car vous nous avez appelé pour avoir quelques précisions sur ce qu'on appelle le jour du dépassement.
Oui. Le samedi dernier, le 22 août, l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut lui offrir en un an. On appelle cette date le jour du dépassement et il a été retardé de 3 semaines par rapport à 2019 à raison de la crise sanitaire.
En raison de la crise sanitaire. Et vous vouliez nous dire, et là je crois que ça a coupé, comment les mesures prises dans le cadre de la pandémie ont permis de repousser cette date. Simon Rosé, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Simon.
Bonjour Arnaud, bonjour Alceni.
Comment est-ce qu'on a fait pour repousser ce symbolique jour du dépassement?
Bah, c'est pas qu'on a fait volontairement, ça s'est un peu imposé à nous. En fait, hein, c'est la baisse de l'activité, elle a eu un impact direct sur la pression qu'impose l'homme à la planète. Hein. Il y a eu moins de déboisement, moins d'industrie, moins d'élevage, moins de transport. Le transport individuel, par exemple, juste pour se rendre au travail, ce qui n'était plus possible pendant le confinement, en France, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit tout de suite que toutes les mesures de confinement qui ont été imposées un peu dans tous les États autour de la planète ont eu un impact direct sur la pression que l'homme met sur Terre. On estime que grosso modo, cette période de confinement va entraîner une baisse d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2020 comparée à 2019. Donc voilà, c'était pas une volonté de le faire, mais de fait, la réduction de l'activité a permis de relâcher un petit peu la pression sur la planète.
Ça l'a fait tout de même. Alceni, on vous a retrouvé. Vous aviez une deuxième question à poser à Simon Rosé.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un recul du jour du dépassement par rapport aux années prochaines?
Alors, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là, Simon? Ou est-ce que, puisqu'on a repris une activité normale, si je puis dire, ça va repartir de plus belle?
Malheureusement, c'est difficilement envisageable que la bonne nouvelle se répète. Il faudrait pourtant, pour respecter les accords de Paris, mais là, donc, comme on le disait, les mesures, elles ont été contraintes, hein, elles n'ont pas été prises par choix. Et du coup, les États se dépêchent d'essayer de retrouver une activité économique normale, entre guillemets. La Chine a déjà retrouvé une activité similaire à 2019. Voire même déjà un peu plus, hein, le mois de juillet, ils ont émis un peu plus de gaz à effet de serre qu'en 2019. Les États-Unis en sont pas loin. En fait, tout va dépendre de la couleur des plans de relance économique, s'ils tendent plutôt vers le vert ou s'ils tendent plutôt vers le marron. Pour l'instant, les deux pays les plus gros pollueurs au monde, la Chine et les États-Unis, ont plutôt des plans de relance qui tendent vers le marron. L'Europe a un Green Deal en discussion, donc on verra effectivement ce que ça va donner concrètement. Mais
globalement, ça veut dire qu'inexorablement, les hommes vont continuer à dépasser les capacités de régénération des écosystèmes.
Sans choix politique et de société clair, pour se donner un peu un ordre d'idée, pour respecter les accords de Paris, il faudrait grosso modo un confinement par an. C'est ce niveau-là de baisse des émissions qu'on doit avoir tous les ans. Et bien sûr, entre-temps, il ne faudra pas chercher à gagner ce qu'on a perdu.
Bien sûr.
Demande des choix de société très volontaristes et pour l'instant, on n'y est pas clairement.
On n'y est pas. Merci Simon Rosé, journaliste au service Sciences et Environnement de RFI. Merci d'avoir répondu à Alceni. Merci Alceni, bonne journée à vous, à l'abbé.
Merci, bonne journée aussi à Paris.
Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent chaque matin pour ces questions sur l'actualité. On vous retrouve dans 10 minutes. Le débat, vos réactions après l'annonce choc de Lionel Messi. À tout de suite sur RFI.